pitié plus qu'on ne peut dire se cache au cœur de l'amour, puisque tous ces gens qui trafiquent, et le charroi des nuées, tous ces vents froids qui soufflent sans fin leurs trompes de pluie, et ce bois de noisetiers sombres où l'eau court comme souris grise, tout menace l'être que j'aime. C'est un poème de Yeats qui s'appelle The Pity of Love et c'est traduit par Yves Bonnefoy.
Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Du cinéma aujourd'hui à notre programme, en cette veille de sortie de Roubaix, une lumière, nous avons le plaisir d'accueillir, vous venez de l'entendre, le réalisateur Arnaud Desplechin. En 13 films, c'est une œuvre aussi cohérente qu'inattendue qu'a construit ce fabricant de films, comme il aime se définir. La famille, les relations hommes-femmes, les petites rancœurs et les nobles causes habitent son cinéma depuis son premier moyen-métrage, La vie des morts. Mais si une correspondance s'établit d'un film à l'autre, de nouveaux films, de nouveaux fils se tirent et se tissent sans cesse. Roubaix est la ville qu'il a vu grandir, une ville où il a maintes fois posé sa caméra, sans y avoir jamais été, j'ai le sentiment de connaître Roubaix par votre cinéma, Arnaud Desplechin. Et cependant, c'est sous un nouvel angle que vous filmez ici la ville de votre enfance, où le réel entre en jeu pour que puisse rejaillir la fiction. Bienvenue dans le Mag de l'été.
France Inter. Duh. Le Mag de l'été. Anna Sigalevitch.
Arnaud Desplechin, pourquoi vous avez choisi ce texte pour entrer dans l'émission avec nous?
Parce que c'est un texte c'est les premiers vers que récite le lieutenant Louis Cotterel, qui vient d'arriver de la campagne de Grenoble. Il découvre Roubaix et c'est un peu le narrateur du film. Et à un moment, il regarde comme ça une ville que des gens qui sont dans des situations de dénuement. Et il cite juste les deux premiers vers qui sont « Pitié plus qu'on ne peut dire et caché au cœur de l'amour ». Et la pitié, c'est quelque chose auquel on n'aime pas penser. On aime bien penser que l'amour, c'est noble ou des trucs comme ça. Mais le poème se termine par « Tout menace l'être que j'aime ». Et que la pitié soit une dimension de l'amour, ça me plaisait, je trouvais que ça avait beaucoup d'insolence. Voilà.
Et on peut aussi penser que Yeats, c'est un poète donc irlandais de la fin du 19e et du début du 20e, prix Nobel de littérature, qui a au début été très romantique dans son écriture et qui peu à peu est allé vers une forme d'épure et de simplicité.
D'extrême simplicité.
Voilà. Ouais. Est-ce que c'est aussi le mouvement vers lequel vous êtes allé pour votre film Roubaix, une lumière?
Ah oui, ça me touche que vous me disiez ça. Bien sûr, je relis l'escalier en spirale en ce moment, qui est un des derniers recueils de Yeats, qui va de plus en plus vers le dénuement, on voit l'arête du poème. Et c'est vrai que je voulais faire un film où on voit l'arête du film, vous voyez, où on se cogne dessus.
Donc c'est pas un hasard que Yeats soit présent, j'imagine.
Non, c'est pas. Il apparaissait déjà dans certains films que j'avais fait avant. Je pense à Trois souvenirs de ma jeunesse, le jeune narrateur, le jeune Paul Dédalus, très maladroit, envoyait des poèmes interminables de Yeats à sa compagne qui disait « J'en ai rien à foutre, préfère que tu dises ce que tu m'aimes ». Et vous voyez, c'était... Donc j'aime bien comme ça revenir parfois sur des chemins que j'ai déjà tracés et j'aime bien découvrir des nouveaux chemins. Et avec ce film-là, j'ai été servi parce que tout était nouveau dans Roubaix, une lumière.
Les dauphins savent nager, bien que rien nous gâte ensemble, nous les vaincrons à jamais. On peut être héros juste un chemin. Et toi,
La version française de Heroes de David Bowie dans le Mac de l'été sur France Inter. Nous sommes avec Arnaud Desplechin pour parler de son nouveau film Roubaix, une lumière qui sortira en salle donc demain, où sont réunis autour de Roche Dizem, Léa Seydoux, Sarah Foresti, Antoine Reinhardt, entre autres. Alors le film met en scène le commissaire Daoud à Roubaix. Vous me dites si je fais un bon petit résumé. Donc il patrouille la nuit de Noël. Quant au commissariat, on suit les débuts d'un jeune policier, Louis Cottrel. Et puis on va apprendre le meurtre d'une vieille dame. Et donc une enquête va commencer où seront impliquées deux jeunes femmes qui sont en situation de grande précarité. Ces jeunes femmes, ce sont Claude et Marie, incarnées donc par Léa Seydoux et Sarah Forestier. Alors je le disais en préambule, Arnaud Desplechin, vous avez beaucoup filmé Roubaix, mais pas comme cette fois-ci. Jusqu'à présent, c'était plutôt le Roubaix de, enfin, en tout cas, qu'on imagine de votre enfance, dans un milieu relativement privilégié. Là, c'est une facette tout autre qui apparaît.
Oui, là, c'est un film, ça tourne autour d'une institution, qui est un commissariat, et c'est des trajets. Alors, il y a ces deux figures de flics, Daoud et Cottrel, et c'est des trajets de femmes qui croisent ce commissariat. Principalement, ces deux femmes qu'on découvre, Léa Seydoux et Sarah Forestier, qu'on découvre d'abord un peu victimes dans leur courrier, où elles sont plutôt harcelées, où il y a une maison à laquelle il y a eu un incendie. criminel, etc. On les voit, etc. Et puis qui peu à peu deviennent suspectes lorsqu'il y a un meurtre. Et où elles sont interrogées. Et là, tout d'un coup, c'est un Roubaix extrêmement brutal. Est-ce que je l'ai connu, ce Roubaix-là ? Non. Parce que j'ai une vie protégée. J'ai pas une vie protégée dans le sens bourgeois ou de choses comme ça, pas spécialement. Mais dans le sens que j'ai une vie de cinéphile, si vous voulez. C'est que de l'âge de 11 ans à l'âge de 17 ans, je suis resté enfermé dans ma chambre à regarder de la télé, à lire des livres, à écouter des disques. Et je connaissais pas ma ville. Et en fait, je l'ai connue à travers ce film. Et j'avais une grande envie de me frotter à la brutalité du réel, à me pencher sur un œil documentaire. Et j'avais été très frappé par un fait divers que mes parents, qui habitent toujours à Roubaix, m'avaient raconté. Ce fait divers qui était très terrible, qui était inhumain. Et j'avais découvert un an après le film de Moscow Bucco, Roubaix Commissariat Central, qui reprenait, qui avait suivi, qui était là, tout bêtement, il a enregistré ça et mis en scène. C'est un très grand metteur en scène de documentaires. Et ça m'a pris, je me suis dit, bah voilà, il faut que je fasse ça. Alors il y avait ce commissaire Daoud que j'avais à l'esprit, qui est la performance de Roche Dizem troue le cœur. C'est vraiment une bombe, ce qui fait, je suis à genoux devant lui, quoi. Le personnage du commissaire ne croisait pas le trajet de ces deux jeunes femmes dans le documentaire de Moscow Bucco. Et moi, j'avais envie que ce commissaire Daoud et son narrateur, Louis Cottrel, tous les deux rencontrent ces deux jeunes femmes. Voilà. C'est le croisement de ces deux personnes, de ces quatre personnages, de ces quatre solitudes qui fait le film.
Qui fait la fiction. Alors, c'est troublant parce qu'en effet, dans ce documentaire, il y a aussi, c'est comme si c'était un appel à la fiction. Parce que, par exemple, dans la reconstitution des faits, la policière dit aux jeunes filles, jouez la scène, faites comme si vous jouiez la scène. Ça, j'imagine que vous, en tant que cinéaste, sur cette ville, sur ce fait divers qui vous avait marqué, c'est une chose qui est quand même troublante, quoi, non ?
Ah, bien sûr, oui. C'est à la fin, la reconstitution à laquelle on assiste, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Les deux femmes hésitent à reconstituer. Elles disent ben non, donc elles vont dans la coulisse, qui est juste le petit côté de la pièce. Et puis parfois elles vont dans la lumière, devant le lit blanc où la vieille dame Lucette a été assassinée. Et les voilà en scène. Et les voilà qui doivent parler. Et les voilà qui ont le trac. Et les voilà qui tout d'un coup se dégonfle et retourne vers la coulisse, et ça c'est mis en scène par Daoud.
C'est ça. Oui. Et dans le documentaire d'ailleurs, ça se termine par quelque chose où la fiction explose littéralement, puisque ça se termine par un sous-titre, où Annie, qui devient Marie dans votre film, dit « Maintenant qu'on a tout avoué, est-ce que vous allez nous séparer ?» Et là, tout d'un coup, le fait de voir des sous-titres, en effet, c'est encore un appel à la fiction.
C'est un appel à la fiction. C'est drôle parce que je me disais en faisant le film, c'était vraiment mon obsession pendant toute l'écriture, puis la préparation et puis le tournage. Je me disais, faut qu'on mette la fiction à la porte, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait trop de fiction dans mes films. Ce que j'adorais, vous voyez, ce que j'aimais bien, c'est en faire trop. Vous voyez, c'est de faire beaucoup trop de fiction dans chaque film. Et là, je me disais, là, j'en veux plus aucune. Mais la fiction, elle est revenue, et il me semble qu'elle est revenue par le jeu de l'acteur. C'est que le jeu de l'acteur, je vous parlais de Roche Dizem, dans la performance m'importe tant, mais les deux femmes ou Antoine, enfin ce qu'ils m'ont offert, c'est le roman est revenu par eux, quoi. Je racontais comme ça à une amie, je racontais mes rencontres avec Sarah Forestier, puis avec Léa Seydoux. Quand je regarde le personnage joué par Sarah, je pense, elle est comme Jeanne d'Arc. Elle est comme Jeanne d'Arc qui va au bûcher. C'est comme, et l'évêque Cochon lui dit, vous êtes une sorcière. Et quand je regarde Léa Seydoux, je me dis, elle est comme Thèse d'Urbanville qui se dit, on va me conduire à l'échafaud. Mmh. Alors, du coup, voyez, moi qui croyais me dépouiller de toute fiction, la fiction est revenue, mais par le jeu de l'acteur.
Et vous dites aussi, enfin, vous citez Dostoïevski, vous parlez de Crime et Châtiment. Alors, moi, je trouve que c'est aussi intéressant parce que il y a l'idée de rendre de la dignité, me semble-t-il, au personnage aussi par le pouvoir de la littérature avec Raskolnikov pour Dostoïevski dans Crime et Châtiment et vous pour ces deux jeunes femmes, donc par le cinéma.
Oui, je pense à un mot comme ça. C'est un film. Excusez-moi, j'ai l'esprit de l'escalier, mais je pense à un film donc qui m'a servi beaucoup, qui est Le Faux Coupable, qui est un film d'Alfred Hitchcock où il n'y a aucune fiction, où tout est un fait divers et tout est articulé sur le fait divers. C'est un film avec Fonda qui est absolument remarquable. Et Godard, dans un article, disait on aurait pu sous-titrer ce film Humilié, offensé. Et je pensais que voilà, c'est Daoud, il a ce souci pour les gens qui sont humiliés, offensés. Et comment rendre aux gens qui vivent des conditions, comme vous disiez, de précarité, comment leur rendre une dignité et dire bah, ils sont aussi grands que les personnages de romans. Alors si vous les regardez mal, vous dites bah, c'est sordide, c'est minable, c'est des pauvres gens, c'est, voilà, ils sont ivres, ou ils sont un peu drogués, ou ceci et cela. Et si vous les regardez avec le bon angle, vous diriez mais si Dostoïevski les avait regardés, il aurait raconté quoi? Si Thomas Hardy l'avait raconté ça, il aurait raconté quoi? Il aurait raconté la grandeur qu'on peut avoir, même dans les moments les plus dérisoires de nos vies. Et cette grandeur des personnages, le fait que à travers... l'humiliation que peut constituer une vie désarmée, une vie aux abois comme ça, et ben quand même il y a ce mystère, c'est que vous avez une âme, vous avez quelque chose qui est plus grand que vous à l'intérieur de vous et qui fait de vous un personnage. Et ça, je crois que c'est le pouvoir du cinéma.
Et dans le film, il y a un sondeur d'âme qui est Roche Dizelm, qui joue donc le commissaire Daoud, qui est en effet, vous le disiez, il est absolument exceptionnel dans le rôle. On va écoutez un extrait du film de Roubaix, Une lumière, de vous, Arnaud Desplechin.
Vous savez toujours, vous, si un suspect est coupable ou innocent?
Toujours.
Comment on fait?
Je sais pas. J'essaie de penser comme eux.
Vous avez été flic ici?
Ouais.
Et après?
Après, 2 ans de formation à Saint-Cyr, au Mont d'Or.
Vous avez une famille?
Non. Bah si. Tout le monde a une famille.
Ils doivent être fiers de vous.
Pourquoi?
Vous voir commissaire, c'est beau.
Mon grand frère habite plus ici et tout le monde est rentré au bled.
Toute la famille?
Tous.
Ah oui. Pourquoi?
Mauvaise question. La question, c'est pourquoi moi je suis resté. Où voulez-vous que j'aille? Ici, c'est toute mon enfance. Là-bas, c'est la Belgique. Le bar à Champagne. Par ici, c'est Tourcoing. Et derrière, on devine l'île. Et au pied des cheminées, là, c'est l'épaule. Et si vous regardez bien, on voit l'école où j'ai appris le français. À 7 ans, quand je suis arrivé ici. Aujourd'hui, c'est violent, sale, beaucoup de drogue. Et en face du parc, c'est mon collège.
Un personnage absolument fascinant que celui du commissaire Daoud, interprété par Roche Dizem, avec Antoine Reinhardt, qui joue donc le jeune policier qui débarque à Roubaix. Alors, Roche Dizem, on pense à beaucoup de personnages de cinéma. Moi, j'ai pensé à Maigret, au Maigret de Gabin. Mm-hmm. On pense aussi au Samouraï de Melville, à François Parier. Vous le citez d'ailleurs, et on y pense comme ça dans la présence, dans les silences. Tout est ici question de présence. Vous le dites, Arnaud Desplechin. Dans cette approche étonnamment humaine du commissaire envers les suspects, donc qui sonde les âmes, il y a quelque chose, me semble-t-il, de presque religieux. Il est presque christique, en fait, ce commissaire. En tout cas, il y a une humanité qui est incroyable, qui se dégage de lui. Je ne sais pas comment vous avez pensé les choses, mais
il y a un personnage comme ça. Il y a le personnage du jeune lieutenant qui est tenté par la religion. Est-ce qu'il a la foi ou pas la foi? Ça, c'est toujours des questions indémerdables. De personne n'a la foi, ou tout le monde cherche la foi, etc. Mais lui, il la cherche. Daoud, pas du tout. Daoud, on voit que c'est plutôt un laïcard. Voilà, la religion, c'est pas son truc. Et pourtant, il a une forme d'humanité qui est dite dans la scène qu'on vient d'entendre. C'est le lieutenant qui est impressionné par le commissaire. Il dit mais alors vous faites comment? Et Rushdie lui répond, j'essaye de penser comme eux. C'est-à-dire que c'est pas un
c'est
juge.
L'empathie.
C'est l'empathie. Mmh. C'est une empathie. Vous voyez, je pouvais pas le titre international du film, c'est Oh Mercy, qui pourrait se traduire par Oh Miséricorde. Et j'aimais bien que ce soit, vous disiez, un côté christique, mais je pourrais penser un côté musulman, le miséricordieux. Vous voyez,
il y a une
forme de miséricorde comme ça qu'il offre aux gens, parce que il est la ville. Il parle de la ville qu'il peut pas quitter. Il s'identifie. Et en fait, j'ai l'impression un peu, peut-être je pense à moi-même. Vous voyez, quand je regarde un film, je sais pas faire grand chose, mais il y a un truc que je sais faire, c'est m'identifier. Ça, je sais faire. Regarder un acteur et m'identifier à ce qu'il joue, je sais le faire. Et ben, lui, il fait pareil. C'est qu'il est un suspect ou une victime, il s'identifie. Il dit voilà ce qu'il, la victime, ça aurait pu m'arriver. Le suspect, j'aurais pu faire comme lui. Il se met jamais au-dessus. Vous voyez, c'est le contraire d'un juge. C'est purement un flic. Et c'est purement un flic, mais avec cette douceur. Et alors, je disais à Rushdie, la première fois où je l'ai rencontré avec grand trinque, parce que je me disais, si jamais il me dit non, je suis mort, je fais pas le film, donc voilà.
Ah oui, c'est vrai, à ce point.
Ah oui, à ce point. Et je lui ai pas dit, bien sûr. Mmh. Je lui ai dit après, à Cannes, je lui ai dit, mais pas avant. Et donc, je lui disais, voilà, je sais une chose, si jamais tu acceptes le rôle, c'est je sais que Daoud sourit. Et le sourire de Daoud, moi, je sais pas pourquoi il sourit, parce qu'il a une vie très austère. Quand on voit sa vie, c'est très austère.
Il est seul.
Et puis, il est très seul. Et puis, toutes les situations qu'il rencontre sont des situations plutôt brutales. Et pourtant, il y a ce sourire chez lui. Et je disais, voilà, comme toi, tu joueras le rôle, c'est toi qui sauras pourquoi Daoud sourit. Et il y a un mystère derrière ce sourire, comme le sourire du chat. Vous voyez, et le sourire de Daoud vient éclairer le film, vient lui donner son titre, hein, Roubaix une lumière. C'est le sourire de Daoud. Quand tout peut sembler sombre.
Roubaix une lumière, donc une lumière, c'est lui.
C'est lui, bien, ouais. C'est lui aussi.
C'est lui aussi. C'est aussi Chaplin un petit peu, ou pas du tout, vous y avez pensé.
Aux lumières de la ville.
Bah, un petit peu.
C'est bien de penser à ça. C'est vraiment, ça devait traîner. J'aime tellement Chaplin, vous voyez, d'habitude.
En tant que cinéphile, sur la justice sociale, bien sûr.
The Kid, des films qui comptent tant pour moi.
Alors, c'est la première fois qu'il n'y a pas votre double, qu'il n'y a pas Mathieu Amalric.
Ah, c'est pas la première fois.
Une des premières fois, quand même.
Je me souviens en n'étant pas peu fier de Emmanuel Salinger qui avait eu le César pour La Sentinelle. Alors, vous voyez,
il y a très longtemps, La Sentinelle.
Mais enfin, j'en étais pas peu fier. Non, il est pas dans ce film-là. Le personnage, c'est très important. Il est algérien. Roubaix est une, je disais, mais pas du tout algérien. Mais le personnage l'est. Et c'est pas une ville maghrébine, Roubaix. Ça, vous pourriez plutôt le dire de Lille ou de Marseille. C'est vraiment une ville algérienne. Il y a un tropisme très fort. Tourcoing, où il y a beaucoup de Marocains ou Tunisiens. Mais c'est vraiment une ville qui a une identité comme ça très marquée. Et je trouvais que Mathieu Amalric était pas très crédible en Algérie.
Alors on va écouter une autre femme, une autre actrice que vous avez beaucoup fait tourner, c'est Emmanuelle De Vos. Bonjour Emmanuelle De Vos.
Bonjour.
Vous avez fait ensemble 6 films, est-ce que vous avez eu le sentiment d'apprendre le cinéma avec lui ?
Ah oui, complètement, à la fois sur le plateau et aussi, j'ai des souvenirs comme ça de... où il me montrait des films pour tel ou tel rôle, ou je crois que c'est avec Arnaud que j'ai vu mon premier film de Bergman, et je me souviens comme ça d'analyse de films qu'il pouvait faire, c'était comme des petites leçons de cinéma.
Qu'est-ce qui vous touche dans son cinéma, Emmanuelle De Vos ?
Une alliance assez parfaite des corps et de l'esprit dans tous ses personnages, et même dans sa manière de filmer, qui peut être vu comme cérébral, moi je la vois comme très très organique et très avec le corps des acteurs. Dans son dernier film, c'est encore plus marquant.
Dans Roubaix une lumière ?
Oui. La peau des acteurs, le grain, alors maintenant c'est plus de la pellicule, mais il y a un grain comme ça, il y a quelque chose de très très ample et en même temps qui est très dans l'intime. Mais c'est toujours ça qui m'a... C'est très fort, le corps et l'esprit est parfaitement là, présent.
Il a une façon de diriger comme ça qui induit quelque chose de physique.
Ah oui, je pourrais me souvenir de gestes qu'il fait dans la direction, mais presque pas de ses paroles. Enfin, si il parle, mais il parle de moins en moins d'ailleurs. Mais c'est sa présence physique qui est très directrice finalement.
Et depuis, donc ça fait plus de 20 ans que vous travaillez ensemble, presque 30 ans, est-ce que sa façon de travailler, de filmer, de diriger a beaucoup évolué, ou est-ce qu'il y a une forme de continuité évidente dans sa façon de construire ses films et de diriger ?
Oui, je trouve qu'il est dans les purs, je pense.
Merci beaucoup, Emmanuel De Vos.
Je vous embrasse tous.
Voilà, on l'a eu tout à l'heure, elle était dans les montagnes, mais bon, c'était bien, je trouve qu'elle parle de vous. Elle
j'adore entendre cette voix, j'adore tant entendre cette voix.
Et elle parle de vous, Emmanuel De Vos, de votre façon donc très physique de diriger les acteurs, par votre présence. Est-ce que vous avez conscience de ça?
Ben, je sais que je fais l'andouille, vous voyez, parce que je fais l'andouille sur le plateau. Dans la vie, je sais pas le faire. Ouais. Mais sur un plateau de cinéma, je sais le faire. Parce que je me dis, si les acteurs s'ennuient, les spectateurs vont s'ennuyer en regardant des gens qui s'ennuient. Ouais. Donc il faut que les acteurs, ils s'amusent. Qu'ils s'amusent à être drôles ou qu'ils s'amusent à être très malheureux, hein. Mais qu'ils s'amusent.
Donc vous devez animer.
Et donc j'essaye de, donc je fais le clown. Oui. Et je joue les rôles, je les interprète, j'aime beaucoup jouer les rôles féminins, ou les rôles masculins, mais j'ai une petite préférence pour les rôles féminins. Donc je joue devant eux, quoi. Et je joue pour essayer de leur ouvrir des champs de possibles. Et je suis très touché qu'Emmanuel parle effectivement de ses leçons, puisque ça aurait été la première chose que j'aurais fait dans le cinéma, c'est de m'occuper du ciné-club, vous voyez, au collège. Oui. Et de montrer des films, de dire pourquoi je les aime, de montrer des détails, etc. Et c'est vrai que ça s'est souvent passé avec Emmanuel, et j'aime qu'elle parle de la sensualité, parce que souvent on peut penser, comme des fois il y a des dialogues littéraires, ce qui n'est pas le cas dans Roubaix une lumière, où c'est vraiment que des mots qui viennent de la vie de tous les jours, des mots quasiment improvisés. Pour tous les comédiens locaux, tous les comédiens roubaisiens, c'était des mots improvisés qu'il disait. Et pourtant, c'est pas le. Je sais qu'il y a un cinéaste auquel je pense tout le temps, c'est à Miloš Forman, parce que c'est le plus sensuel de tous les cinéastes. Et c'est vrai que j'ai une obsession pour ça. C'est pour que les choses soient sensuelles, que vous souveniez s'il faisait humide ce jour-là ou s'il faisait sec, que vous souveniez si vous voyez le froid quand vous asseyez dans l'herbe humide. Vous voyez ces choses-là qui me passionnent. C'est quand on arrive à attraper la sensualité, quand ça passe par le corps et pas par la tête. Et c'est ça
que le spectateur ressente ça.
Que l'acteur le sente,
oui,
et que l'acteur le regardant arrive à le faire passer.
Alors là, il y a en effet quelque chose de nouveau, vous le disiez, vous mélangez des acteurs professionnels et puis des gens qui incarnent leurs propres fonctions dans le film, qui ne sont pas des acteurs. Mm-hmm. Est-ce que ça vous a obligé à réinventer votre façon de diriger ou pas du tout?
Oui, si, un peu,
si,
un petit peu, oui. Ben oui, parce que je rencontrais, c'était un ami, Alexandre Nazarian, qui me présentait des tas de gens absolument admirables, des gens de Roubaix qui ont nourri le film, je pense, je sais pas. Au tout début, on voit une boulangerie comme ça, avec un boulanger qui est attaqué, qui en a marre, il a pas du tout eu peur, alors qui était joué par un monsieur qui s'appelle Mamadou Koulibaly, qui est pas du tout acteur. Et alors, dès que je lui faisais dire mon texte, il était pas bien du tout. Et vous voyez, donc, dès que j'étais dans la pièce, il était pas bien. Et quand il était filmé par mon ami Alexandre Nazarian, il était super. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, à un moment, je me suis dit, mais oui, c'est idiot, je lui demande d'être acteur alors qu'il ne l'est pas. Alors, je disais, non, mais monsieur, vous faites quoi dans la vie? Il disait, je suis ouvrier. Avant, j'étais berger en Afrique. Alors, je lui dis, racontez ça, racontez votre vie et ça ira très bien. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je leur dise, si vous voulez, s'ils disaient mon texte, ils étaient punis, on faisait une autre prise. Voilà. Et donc, je leur dis, alors comme les acteurs naturels n'aiment pas beaucoup refaire des prises, je leur dis, ah, attention, vous avez dit mon texte, on devrait être obligé d'en refaire une deuxième. Et puis, alors, on en faisait jusqu'à ce que peu à peu la vie arrive à l'écran. Mmh. Vous voyez que la vie arrive à l'écran. Mais les acteurs qui ont plus d'expérience savent prendre les mots des autres. Comme moi, j'étais incapable de lire le poème devant vous, eux, ils savent le faire. Ils savent prendre les mots de Yeats et les transformer. Et quand ils parlent, vous dites, putain, c'est eux qui l'ont inventé, quoi. Ils savent le faire. Léa Seydoux, elle sait faire ça. Sarah Forestier, elle sait faire ça.
Léa Seydoux, c'est elle d'ailleurs qui est venue vous voir, c'est elle qui avait...
Oui, c'est elle qui avait, qui avait lu le scénario par son agent, qui était le même agent que Sarah Forestier. Ouais. Et c'était un rôle, elle a un rôle, j'ai une gratitude pour Léa infinie, parce qu'en écrivant, vous voyez, je savais qui était Marie, c'est-à-dire le personnage joué par Sarah Forestier. Je savais la jouer, je la connais de tout temps, je la connais. Et je suis elle, je sais le faire, c'est ma sœur, je le sais. Mais
c'est un personnage qui est beaucoup plus transparent que celui de Claude.
Voilà, qui m'était transparent à moi-même. Oui. Et le personnage de Claude est beaucoup plus complexe, beaucoup plus étrange. Alors c'est cette femme qui est mère célibataire, qui vit en couple avec une femme qu'elle n'aime pas beaucoup. Elles ont des rapports un peu houleux comme ça. Et est-ce qu'elle a une dévotion pour son fils? C'est pas vraiment ça. Son fils est en foyer, s'en occupe-t-elle ou non, etc. Et c'est d'arriver à la comprendre. Et sans Léa Seydoux, j'aurais jamais compris la dignité de Claude, cette façon qu'elle a admirable de résister. Vous voyez, je disais à Léa Seydoux pendant le tournage, tu persistes. Elle persiste dans son être. Et elle s'effondre. Et elle remonte en selle et elle persiste à nouveau et elle s'effondre. J'ai compté une fois dans le film, elle s'effondre 6 fois. Et comme une reine, elle remonte, vous voyez, pour monter sur l'échafaud. Et jusqu'à la scène qui l'accompagne à la prison à la fin où elle est à tomber pas. Je pleure quand je la regarde dans le camion qui l'emmène en prison.
Alors, Arnaud Desplechin, il y a donc des nouveaux venus dans votre film. Il y a aussi des fidèles. Il y a notamment un fidèle qui n'est pas à l'image, mais qui est très présent malgré tout dans nombre de vos films. C'est Grégoire Hetzel, le compositeur de musique. On l'écoute. Bonjour Grégoire Hetzel.
Bonjour.
Alors, vous êtes le compositeur des musiques de films d'Arnaud Desplechin. Comment est-ce qu'il conçoit musicalement ces films ?
Comme un contrepoint, je dirais. Un contrepoint qui court de manière souterraine, sous les dialogues, qui les nourrit, les commente, comme une autre voix, qui serait la voix de l'inconscient, la voix des sentiments profonds, une âme rendue audible par la musique.
Donc il accorde une place essentielle à la musique dans ses films.
Oui, déjà il y a énormément de musique, enfin, tous les styles souvent, hein, enfin, pop, rap, jazz, classique, musique originale.
Comment est-ce que s'organise le travail concrètement entre vous, Grégoire Hetzel ?
En cours de montage.
En cours de montage, d'accord.
En cours de montage. J'arrive parfois au début du montage, parfois à la fin, mais en cours de montage. On leur donne des noms aux thèmes. On leur donne un thème d'amour, de compassion, de culpabilité, tout ça. C'est souvent des thèmes entités. Après, je commence à composer tout seul. J'improvise au piano, je fais des maquettes. Très précises, hein, déjà très orchestrées. Et là, il vient écouter. Et là, vraiment, il entre vraiment mais dans les courbes mélodiques, dans les notes, quoi, dans l'harmonie, dans les choix instrumentaux. Et il cherche le sens toujours, le sens de chaque note, de chaque harmonie, sans connaître la musique, hein, il connaît pas du tout la musique, mais il entend très précisément la moindre inflexion musicale.
C'était donc Grégoire Hetzel.
Qu'est-ce que je l'aurais embêté, Grégoire Hetzel. Qu'est-ce qu'il est patient avec moi. Parce que je chante devant lui. Vous voyez, je chante, je sais pas chanter de la même manière que je sais pas lire les poèmes. Alors je lui dis, mais non, c'est pas ça la note, c'est pas ça la note. Et je la chante avec une voix de fossé. Et
il accepte. Et il vous comprend.
Et il me supporte. Il me supporte. C'est pour ça qu'on fait un bon couple.
La musique, comme le dit Grégoire Hetzel, c'est vraiment comme un contre-champ, la musique de vos films, c'est une voix qui est essentielle.
Mais vous voyez, je vous disais, comme le but de ce film, vous voyez, cette lumière du titre, vous disiez, cette lumière, c'est Daoud, et c'est vrai, c'est Daoud, mais cette lumière, c'est aussi ces deux femmes qui sont suspectées, donc, d'avoir fait quelque chose d'inhumain, et pourtant, je vous disais, il y a ce mystère qu'elles ont une âme. Et pour moi, la musique de film, c'est ça. C'est la possibilité de regarder un visage, de le regarder dans un plan muet, où des fois, il n'y a plus de dialogue, vous regardez juste un visage, vous avez une musique qui l'accompagne, et la musique de Grégoire, elle est capable de révéler l'âme de ce que l'actrice est en train de jouer. Et ça, de ne pas oublier que quelqu'un, aussi terrible soit-il les choses qu'il a pu faire, eh ben, il a cette singularité, c'est un être humain, et vous trébuchez dessus. Et la musique me permet de trébucher sur des êtres humains.
Alors dans le film, il y a aussi des figures qui apparaissent en filigrane, notamment celle de, à mon sens, de Claude Lanzmann. Alors il était là de façon très concrète dans votre précédent film, Les fantômes d'Ismaël. Bon, clairement, il était là, quoi. mais là, c'est plus secret, c'est plus souterrain. Mais il y a, me semble-t-il, dans le combat du commissaire Daoud, quelque chose de Claude Lanzmann.
Claude Lanzmann est un réalisateur immense internationalement et français. Il est mort il y a un an. J'en suis encore très très marqué. J'ai eu la chance d'être un peu son ami et l'amitié que je lui ai portée était infinie. Et j'ai appris énormément de choses en regardant ces films comme spectateur. Mais je ne sais pas comme réalisateur si j'avais appris quelque chose de ces films, vous voyez. Et sur ce film, j'ai l'impression que pour la première fois, le cinéphile que je suis savait se servir des films. Il y a une chose qui poursuit à travers tout Shoah. Tous les films de Claude sont très différents les uns des autres. Mais dans Shoah, il y a une obsession comme ça que Claude a toujours affirmé. C'est qu'il ne faut pas demander pourquoi, il faut demander comment. Quand vous êtes devant quelque chose qui est au-delà de l'humain, il faut demander comment ça s'est passé. Vous voyez, pourquoi ça c'est pour les philosophes, ça c'est pour les prêtres, ça c'est pour...
C'est de l'explication, quoi. Ouais.
Voilà. Mais le cinéaste, il doit juste dire comment. Comment ça s'est passé. Et cette modestie du commissaire, elle est héritée de Lanzmann, c'est un hommage à Lanzmann, très certainement.
Un film comme Shoah est une création pure du début à la fin. C'est pourquoi je récuse l'appellation de documentaire... Pour ce film, enfin, ça fait exploser la catégorisation documentaire-fiction qui est plainte et qui ne va pas très loin. Souvent, dans les films de fiction, c'est la partie documentaire qui est la meilleure. Et en tout cas, il ne s'agit pas, avec un film comme Shoah, de l'enregistrement d'une réalité préexistante. Il n'y avait aucune réalité à filmer. Il fallait la créer, cette réalité, l'inventer.
Oh combien. C'est tellement, vous voyez, ça peut sembler abstrait à vos auditeurs. Je vais prendre un exemple très concret. Vous voyez, il y a une série américaine qui est merveilleuse, qui s'appelle The Wire, qui est une série qui commence à avoir un peu d'âge, qui est une série comme ça qui dépeint une ville qui va à la faillite, un peu comme Roubaix, et qui le montre
à travers Baltimore,
à travers des tas d'institutions. Et en fait, si vous essayez de faire la différence entre Fred Wiseman, le grand documentariste américain, et la série de divertissement qui est The Wire, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre la fiction et le documentaire. Regardez, je me suis servi d'un film admirable de Moscou Bucco, et vous me parliez de la fiction à l'intérieur du film de Moscou, comme à l'intérieur de mon propre film. Et cette explosion, comme ça, des catégories documentaire-fiction, c'est une des inventions de Claude Lanzmann.
C'est ça, oui, vous dites que c'est quand même un des plus grands inventeurs du cinéma.
Ah, bien sûr. Ouais. Ah oui, allez, vous parliez de Chaplin, j'en ai parlé dans un texte, bien sûr, du rapport entre Chaplin, et entre Hitchcock et Lanzmann. Oui, je pense, je suis rarement... J'ai pas l'esprit cocardier. Et puis, vous voyez, je me dis quand même, je suis français. Est-ce que je suis français? Je suis pas vraiment français, mais enfin, je suis né ici, quoi. Je suis né ici quand même. On a eu les Frères Lumière. Et puis quand même, on a eu Claude Lanzmann, quoi. On a eu François Truffaut. C'est pas rien, quoi. Et ça vous donne une fierté de, vous voyez, d'appartenir à une cinématographie que je connais pas bien, parce que je connais mieux le cinéma américain que le cinéma français. Et quand je regarde les films de Lanzmann, je suis pas peu fier de faire des films ici.
Et vous avez d'ailleurs, il va y avoir une rétrospective qui vous est consacrée à partir du 28 août à la Cinémathèque française, et vous avez choisi de montrer un film de Claude Lanzmann qui est Sobibor.
Ouais. Qui est un de ses films les plus élégiaques, qui est un très beau film, qui est un film qui est comme un conte un peu, qui est pas...
Un film court d'ailleurs, pour Lanzmann.
Oui, un film court comme ça qui raconte l'histoire de cette première révolte, enfin pas de cette première révolte, mais de cette naissance de la révolte des Juifs à l'intérieur d'un camp d'extermination à Sobibor, et qui raconte ça, et à la fin, le film se termine avec un petit garçon qui s'enfuit dans la forêt et qui s'endort. C'est un film absolument merveilleux, photographié par Caroline Champetier. C'est admirable.
Arnaud Desplechin, nous avons pour habitude, dans le Mac de l'été, de brosser une sorte de petit portrait chinois de nos invités. Est-ce que vous voulez bien vous prêter au jeu?
Je vais essayer, mais...
On essaye.
Avec trac.
Merci.
Essayons.
Arnaud Desplechin, si vous étiez un mot.
Un mot? J'oserais pas le dire. J'ose pas le dire.
Ok, bon, joker.
Cinéma. Mais
cinéma, je
pense
que
à ça. Je pense que à ça.
Très bien.
Midi et soir. Je veux pas vous dire autre chose, quoi.
Arnaud Desplechin, craignez-vous l'esprit de sérieux?
Oui, ça c'est quelque chose que je crains. J'aime pas l'esprit narquois ou le sarcasme, mais vous voyez quand je vous disais je fais des blagues et tout ça, ça me frappe. Vous voyez quand on regarde les photos de Ingmar Bergman qui faisait des films qui quand même n'incitent pas à la joie ou à la franche rigolade, vous regardez, il rit comme des bossus avec ses actrices. Alors vous voyez de raconter des histoires tristes, mais de s'amuser en les faisant.
Anneke, il rit beaucoup sur ses tournages aussi, par exemple.
Oui, paraît-il. Et du coup, et aussi de pas trop se prendre au sérieux. Vous voyez, de dire comment faire pour parler au spectateur et donc de ne pas s'éprendre de soi-même, c'est très important.
Une question de Grégoire Hetzel qui a participé au portrait chinois. Quel est le film d'un autre que vous auriez aimé réaliser?
Le film d'un autre que j'aurais aimé réaliser? Oh, mon Dieu, il y en a tant. Je vous ai parlé de Miloš Forman, alors je vais vous dire un film qui est mal aimé, c'est Valmont. Si j'ai pu réaliser Valmont, la scène de la danse dans Valmont, là franchement je pourrais dire je suis autre chose qu'un fabricant de films, je suis un cinéaste.
Êtes-vous un ami pour vous-même?
Non, je suis mon pire ennemi, ça c'est sûr. Heureusement que je fais des films parce que c'est un travail collectif, alors je ne suis pas tout seul. Mais alors tout seul, je ne vaux rien. Franchement, je ne vaux rien.
De quoi êtes-vous reconnaissant, Arnaud Desplechin?
De pouvoir faire des films. Je ne croyais pas. Je ne le crois pas encore.
Quelle est votre devise favorite?
Larvatus prodeo. J'avance masqué.
Pam, 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 pam. When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me, your words they soothed me, baby. Then I heard from one of your guys all you told me really was a lie. Darling, you hurt me.
C'était Chalala par Alani dans le Mac de l'été, playlist France Inter, choisie pour vous aujourd'hui. Alors c'est le moment, Arnaud Desplechin, de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été. Depuis jeudi dernier jusqu'à dimanche, le Luberon accueille pour sa 44e édition un festival entièrement dédié au quatuor à cordes. La thématique cette année, les femmes muses, enchanteresses, compositrices savantes, interprètes éclairées, avec une programmation essentiellement féminine. Ce soir, les Capsberg Girls seront en concert à 20h30 à l'église du Roussillon pour un programme de chant du 18e siècle pour soprano, mezzo et instruments à cordes.
Ambiance scandale, danse de vandale, ça nous vient la chance. DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox.
Depuis 34 ans, tous les étés au mois d'août, Aurillac devient la ville des arts de la rue. Pendant 4 jours, ce sont des milliers d'artistes et plus de 100 000 spectateurs qui s'agitent. À partir de demain jusqu'à un samedi, vous pourrez admirer pas moins de 18 spectacles dans la sélection officielle, comme la troupe des 26 000 couverts qui présente son dernier spectacle, Véro. Et côté off ou côté rue, 700 compagnies enchanteront la ville. Avec pour devise, Aurillac 2019, c'est un même visage et ce sont des milliers d'habitants, des milliers d'artistes, des milliers de festivaliers qui cheminent les uns vers les autres. À l'affiche aussi cette semaine, le festival de cinéma de Douarnenez dans le Finistère, où pendant 7 jours se croisent documentaires et fictions. Chaque année, un pays est mis à l'honneur. Le choix se porte pour cette 42e édition sur l'Algérie. Après la démission forcée en avril du président Abdelaziz Bouteflika, resté 20 ans au pouvoir, le festival a voulu rendre hommage au peuple algérien qui continue de manifester depuis des mois. Plus de 80 films, des concerts, des expositions et des écoutes sonores sont proposés pour appréhender par les arts ce pays en lutte. Ce soir à 20h30, le film Papicha de Mounia Medour, nommé dans plusieurs sélections à Cannes au mois de mai dernier, sera projeté au cinéma Le Club de Douarnenez. Vous avez jusqu'à samedi pour trouver votre bonheur dans la programmation du festival.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Arnaud Desplechin, est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie dans cette sélection?
Oui, le truc sur l'Algérie, ça me passionne.
Ouais.
Parce que ce qui se passe là-bas est tellement neuf. Vous voyez, c'est tellement, c'est pas une insurrection. On sait pas qualifier ce mouvement. C'est l'histoire. On est en plein dans l'histoire. On a les doigts branchés dans la prise. On regarde. J'habite à côté de la République. Alors tous les dimanches, on voit les manifestations des Algériens français. C'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Est-ce que vous avez le souvenir de votre première grande émotion culturelle, Arnaud Desplechin?
Émotion culturelle, je vais mettre de côté le cinéma, parce que pour moi le cinéma c'est pas de la culture, c'est beaucoup plus voyou que ça, c'est ça que j'aime
ah
bien.
Bon
ah oui, c'est voyou, c'est un art de la rue quoi, c'est des trucs de
parce que pourtant, Danet, qui est un peu votre idole, disait que lui il s'était battu énormément pour que le cinéma soit reconnu comme un art à part entière, comme les autres.
Ah, comme un art, oui. Mais comment on disait Godard, la culture c'est la règle et l'art c'est l'exception. Oui, je pense que le cinéma est un art. Mais j'aimerais bien citer un truc, c'est la première... C'est en deux temps, mais je vais essayer de faire vite, alors je vais parler très vite. Mes parents m'ont emmené voir, j'avais quel âge j'avais? J'avais 14 ans, 13 ans, ou un truc comme ça. Ils m'ont emmené voir un spectacle, et c'était un Marivaux, et j'étais contre le théâtre, vous voyez, parce que j'étais pour le cinéma, parce que je vous disais, pour moi, c'était des trucs de voyous, et tandis que le théâtre, c'était pour la bourgeoisie, pour les gens vénérables, pour les adultes, etc., tout ce que je refusais. Et c'était un Marivaux. Et j'ai vu un spectacle qui m'a stupéfait, cloué
c'était
de beauté. C'était Chéreau.
C'était la dispute.
C'était la dispute. Et alors, après, bêtement, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu tellement de films, vous voyez, j'en voyais 10 par semaine, que j'ai jamais mis les pieds dans un théâtre. J'étais contre. Je disais, je suis pour le cinéma, donc je suis contre le théâtre. Et un jour, je suis rentré à Nanterre, et j'ai vu Hamlet, et ça a changé ma vie. C'était l'Hamlet de Chéreau, et j'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau de ma vie. J'ai vu la pièce 3 fois, je l'ai vu une fois à Nanterre, et je l'ai vu 2 fois, après ça, quand ils ont rejoué. Voilà, ça c'est un choc culturel absolu. Ma vie était plus la même en sortant du Hamlet.
Avant et après Chéreau. Alors j'aimerais, avant de nous quitter, qu'on rende qu'on rend hommage à un jeune compositeur. En fait, on vient d'apprendre la disparition de Julien Gauthier. Il a été attaqué par un ours lors de son voyage au Canada, où il prenait des sons pour une prochaine création. Julien Gauthier, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, ouvert, d'une profonde gentillesse et d'une grande intelligence. Je l'aimais beaucoup. Je l'avais interviewé l'année dernière pour sa création, la Symphonie Australe, pour laquelle il était parti au Kerguelen. On l'écoute. Votre création, qui est une symphonie australe, c'est une création qui a été inspirée par un séjour, une résidence d'artiste qui vous a mené vers les îles Kerguelen. Alors, qu'est-ce qui vous a mené dans cette contrée lointaine?
C'est suite à un appel à projet, l'Atelier des Ailleurs, donc une résidence d'artistique qui propose une fois tous les deux ans à des artistes de s'extraire pour se retrouver aux côtés de scientifiques essentiellement pour aller passer, faire une sorte de voyage initiatique en quelque sorte. C'est un lieu qui est assez mythique dans l'extrême sud, au-delà du 40e parallèle. Les marins le connaissent bien parce que c'est un lieu où quand on passe cet endroit-là, la mer devient déchaînée. Et donc l'île est au bout de ses 40e rugissants. Donc il faut plusieurs jours de mer, de navigation, pour y parvenir.
Quel paysage sonore vous avez découvert en arrivant sur place?
Alors ça a été pour moi un véritable choc en arrivant là-bas. Donc il y a une faune incroyablement diverse, essentiellement des oiseaux et des mammifères marins, que j'ai eu l'occasion d'enregistrer dans l'idée d'éventuellement pouvoir m'en servir à mon retour de tous ces sons-là qui étaient assez inédits pour moi comme matériau musical ensuite pour la création de ma symphonie.
Alors il y a eu une première étape qui a été un disque avec ces sons collectés. Comment vous avez travaillé sur ce disque dont on entend des extraits?
À mon retour, j'ai pensé que ce serait un excellent prélude, en quelque sorte, à la symphonie. Ça m'a permis de synthétiser un petit peu les dizaines et les dizaines d'heures d'enregistrement que j'ai pu faire, dans des conditions qui étaient parfois assez difficiles, hein, par rapport au vent notamment, qui souffle toujours en permanence là-bas. Et donc, j'ai sélectionné une vingtaine d'extraits, qui sont soit parfois des montages sonores, soit parfois des créations sonores également, et parfois de simples paysages sonores d'animaux, dont certains m'ont vraiment servi de, par rapport aux textures, par rapport à des rythmes que j'ai pu détecter, qui m'ont servi de, vraiment de matériau musical.
Quels animaux, par exemple?
Alors, je pense en particulier, une des scènes les plus extraordinaires, c'était la gigantesque colonie de manchots royaux, où il y a des centaines de milliers d'oiseaux sur une gigantesque plage. Et j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans ce lieu et d'y passer plusieurs jours.
Est-ce que, avec l'orchestre, vous avez cherché à retrouver des textures, des ambiances, des couleurs que vous avez pu entendre là-bas et que vous avez essayé de retranscrire avec un ensemble donc fait de cordes, de cuivre, de vent?
Évidemment, j'ai pas cherché avec l'orchestre à imiter ces sons d'animaux, parce que dans ce cas-là, il vaut mieux passer tout simplement ces sons-là. Il s'agit pas vraiment de transcrire les sons entendus. Personne ne va reconnaître un son de manchot ou un son d'éléphant de mer en écoutant la symphonie. Il s'agissait simplement pour moi de m'en servir, comme on se servirait d'un thème dont on ferait des variations, par exemple, là, de se servir de ces sons-là comme une source d'inspiration parmi d'autres.
Et de peut-être de transcrire aussi des émotions.
Alors oui, le sentiment d'isolement, par exemple, le sentiment d'être loin de tout, parce qu'on passe plusieurs mois sans aucune communication, quasiment avec le monde extérieur, en communauté très réduite. Donc aussi de transcrire tout simplement ces émotions, qu'on a du mal d'ailleurs à communiquer au retour. On a du mal à expliquer ce qui s'est passé réellement. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, des gens qui étaient mes compagnons de là-bas, qui m'ont dit peut-être que toi, avec la musique, tu arriveras à transcrire ces émotions qu'on ressent et qu'on a du mal à expliquer quand on revient.
Thank you. C'était donc la symphonie australe de Julien Gauthier. Merci beaucoup Arnaud Desplechin d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. Je rappelle que votre film Roubaix, une lumière sera en salle à partir de demain et signalons aussi la rétrospective à la Cinémathèque française qui vous sera consacrée à partir du 28 août. Cette émission a été préparée par Élodie Royer et Marion Philippe avec l'aide de Maëlan Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet, à la programmation musicale Elsa Béranger et à la prise de son aujourd'hui Nicolas Slimani. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Éric Delvaux pour le Téléphone Sonne. Bonne soirée sur France Inter, il est 19h.